Mais moi, je vais m'attarder un peu plus précisément aux positions justement féministes de Emma Goldman. Mais on ne va pas vraiment s'en aller très, très loin de la guerre. Puis la raison pour cela, c'est que, en fait, Emma Goldman, c'est une personne, quand on la lit, on se rend compte que quand elle aborde un problème ou une problématique, en fait, que ce soit celle de la guerre ou que ce soit celle du suffrage des femmes ou que ce soit sa critique des prisons ou plein d'autres sujets sur lesquels elle s'est arrêtée, on se rend compte que dans chacun de ses essais, en fait, elle passe à peu près à travers toutes les autres questions sociales. Elle voit les liens qu'il y a entre toutes les questions sociales. La lire, c'est comme si elle voyait dans les dynamiques ou les structures, puis dans les institutions de l'exploitation, qu'elle en voyait la structure fondamentale, et puis qu'elle voyait cette structure-là dans toutes ses déclinations, dans toutes les déclinaions, que ce soit dans les rapports hommes-femmes, les rapports immigrants versus autochtones, les rapports entre les classes économiques, entre les classes sociales. Donc, c'est quelqu'un qui voit beaucoup les interrelations entre les choses et qui ne s'attarde pas sur, qui ne compartimentalise pas chaque sujet. Erin a fait référence à son article sur le patriotisme, mais si vous lisez son essai sur le patriotisme, elle fait l'analogie avec d'autres dynamiques de pouvoir et d'autres manifestations, disons, du même esprit que le patriotisme, mais dans d'autres sens. Donc, par exemple, être fier ou se croire supérieur parce qu'on est un homme, donc dans des questions, dans des dynamiques de genre, mais aussi le patriotisme, ça peut être appliqué à des États comme ça peut être appliqué à des idéologies. Donc, ça va peut-être paraître des fois que je saute un peu du coq à l'âne, mais en fait, ce que je voudrais vous... ça, dans quoi j'aimerais vous amener, c'est un petit peu à travers ma propre lecture que j'ai faite de Emma Goldman. Et le but que j'essaie de rejoindre, c'est de vous donner le goût d'aller la lire par vous-même. Parce que je pense que c'est justement parce qu'elle n'a pas une pensée très compartimentalisée, c'est pas une pensée qui est facilement... qui peut facilement être résumée en quelques petits points. Je dirais que c'est quelqu'un qui s'attarde plus aux interrelations dans les choses et des relations. Si on veut résumer ça, ben il faut bien décrire, disons, l'élément A, l'élément B, puis après ça, voir la relation. Donc, à toute fin pratique, je ne ferai que reprendre ce qu'elle dit dans ses essais. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous mettre l'eau à la bouche sur des sujets dont elle traite, puis que vous alliez la lire dans ses propres mots. Moi, je suis loin d'être une experte sur Emma Goldman. J'ai commencé à la lire, encore là, parce que j'ai été emballée par la pièce de théâtre que j'ai vue, puis parce que... puis parce que j'ai été emballée par l'idée de Erin de la faire connaître à d'autres personnes puis de faire des ateliers là-dessus et surtout d'en discuter, qu'on en discute entre nous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai lu certains de ses essais sur des sujets qui étaient plus ou moins proches de la guerre. Comme je vous dis, ça m'a amené à lire sur d'autres de ses sujets et l'aspect que je vais mettre en valeur, c'est vraiment son aspect, l'aspect de son féminisme. Donc les essais que j'ai lus, le premier, se retrouve tous dans ce livre-là, que je vous invite fortement à lire. Donc, c'est ça le but de mon affaire. Lisez ce livre, c'est vraiment bon. Je pense que c'est important qu'on, comme je vous l'ai dit au début, qu'on fasse véhiculer sa façon de voir le monde puis ses idées, même si ce n'est pas tout applicable tout de suite. Ces idées-là, ben, c'est important qu'elles restent vivantes puis qu'elles restent dans la tête des individus puis qu'elles informent notre action dans le monde. Et éventuellement, on espère qu'elles vont trouver un terrain fertile dans lequel germer et créer un nouveau monde. Alors, dans les essais que j'ai lus, il y en a un qui s'intitule tout simplement « Anarchisme », où Emma Goldman explique un peu qu'est-ce que c'est que l'anarchisme selon elle. Et puis, je pense que je n'ai pas de leçon d'anarchisme ou de définition d'anarchisme à donner à la plupart des gens qui sont dans la salle. Mais faut dire que Emma Goldman, elle, ce qu'elle voyait beaucoup dans, disons que dans une société anarchiste, c'était une société qui respectait la personne, qui respectait les différences, la variation entre les individus et tout ça. C'est une société de gens, de personnes libres. La liberté, c'était un thème évidemment très, 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 très important pour elle. Des individus libres qui peuvent s'épanouir et qui ainsi, en entrant dans des relations libres et non contraintes, de collaboration avec d'autres, pouvaient créer une société qui était basé sur la coopération mutuelle puis l'entraide, mais non pas sur la contrainte ou sur l'esclavage, qu'il soit salarié ou non, ou encore sur la domination, que ce soit d'une classe sur une autre ou d'un genre sur un autre. C'est intéressant de s'arrêter 2 secondes sur le mot « anarchisme » parce que, selon l'étymologie grecque, Anne Arquet, ça veut dire sans principe. Puis vous allez souvent m'entendre ou entendre d'autres anarchistes parler des principes. Mais c'est parce qu'il y a deux acceptions de principe. Puis le sens grec qui dit d'où vient le mot anarchisme, ça veut dire sans principe, principe étant quelque chose de premier, quelque chose en haut qui, duquel découle des façons de faire. Alors que les principes, souvent quand c'est un anarchiste qui en parle, ce qu'on veut dire plutôt, c'est des valeurs fondamentales ou peut-être plus une plateforme ou dans notre langage actuel, des bases d'affinité ou des bases d'unité sur lesquelles on est d'accord et à partir desquelles on s'en va plus loin. Donc, c'est quelque chose d'assez... Je trouve que c'est une clarification à faire parce que si je me mets à mettre le mot principe, je ne sais pas de... Je suis pas en train de faire une contradiction. Là, je parle vraiment de valeurs fondamentales et non pas de choses qui sont au-dessus de nous, qui nous dépassent et qui informent toute notre vie alors qu'on n'a pas un mot à dire. Bon, alors, soit dit en passant. L'anarchisme d'Emma Goldman est beaucoup fondé aussi sur la question de la responsabilité. C'est pas juste... comme on l'entend souvent dans les préjugés, l'anarchisme, ben, c'est n'importe quoi. C'est pas vraiment ça, en fait. L'anarchisme, c'est être libre, mais être libre, c'est aussi être responsable. C'est pas quelque chose, c'est pas une carte blanche pour faire ce qu'on veut, mais c'est bien être auteur de ses propres actes. Donc, on dirait avoir de l'autorité sur ses propres actions, mais d'autre part, en être pleinement responsable. La liberté, c'est pas quelque chose de facile. Quelque chose d'autre, un autre essai que j'ai lu, c'est... son essai « Majorité versus minorité », qu'on peut voir un peu comme étant une critique de la structure démocratique dans nos sociétés. Pendant qu'on est dans le département de philo, je vais en profiter un peu pour détruire notre belle idée de la démocratie parce qu'à l'origine, le « démocratie », ça voulait, on pense que ça veut dire « démos » le peuple, « kratos » le pouvoir, donc le pouvoir au peuple, mais dans la culture grecque, le « dem », en fait, c'était comme un domaine et c'était l'unité au-dessus de laquelle trônait l'homme. Et sous lui, ben, il y avait sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses animaux, son terrain, ces choses-là. Et c'était lui, l'homme, qui avait le droit de parler à la cité. Donc, la démocratie, à l'origine, ça ressemble énormément à la société patriarcale que nous a léguée la culture judéo-chrétienne, soit dit en passant. Donc, déjà là, il y avait peut-être les germes de troubles et de confusion dans l'idée de démocratie, parce qu'aujourd'hui, on entend sur toutes les tribunes les gens dire qu'en démocratie, en ce moment, on a besoin de leaders. Ce qui est complètement insensé. On n'a pas besoin de leaders si on est en démocratie, puisque nous sommes souverains. Mais bon, la politique étant ce qu'elle est. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu le livre « The Rebel Cell » de Andrew Potter, puis je ne sais pas trop quoi, là, son autre nom. Non? OK, c'est bon. C'était juste pour faire une petite note pour ceux qui l'avaient lu, que déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Emma Goldman, elle a vécu jusqu'en 1940. Donc, elle antédate toute la révolution culturelle qui a eu lieu dans les années 60, 70 et l'avènement de ce qu'on a appelé la contre-culture. Mais elle-même, elle avait des. Elle disait des choses, elle énonçait des idées dans les années 10, 20 et 30. Qui anticipait déjà la critique de la société qui allait faire toute une génération pendant les années 60 et 70. Donc, c'est très intéressant d'aller la lire déjà pour ça, pour voir des idées qu'on dirait quasiment hippies, mais sortir de la bouche d'une femme qui vivait en 1900. Comme je vous ai aussi mentionné tout à l'heure, je la considère comme étant une critique de la postmodernité, mais avant même la postmodernité. Parce que déjà, elle voyait comme un des mâles de la société occidentale au tournant du siècle. Elle voyait déjà le culte de la quantité. Puis elle voyait cette vénération dans notre société de la quantité, puis cette importance qu'on mettait à la quantité comme étant quelque chose qui se faisait au détriment de la qualité dans les choses. Donc déjà, c'est assez intéressant à notre époque où vraiment la quantité a pris le dessus et la qualité, en tout cas, on n'a rien qu'à penser à la télévision. Il me semble que c'est un bon exemple. J'ai lu aussi la psychologie de la violence politique, ce qui est très intéressant. Parce que là-dedans, Emma, entre autres, elle nous apprend, elle argumente pour passer d'une espèce d'attitude très catégorique vers une attitude où on essaie de comprendre, de se mettre à la place des autres au lieu de les juger. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est sa critique de la violence, entre autres. où elle fait le contraste entre la violence structurelle, la violence faite à une foule d'individus par un État, versus, disons, la réaction de ces individus compressés, contraints, réprimés, quand parfois, ben, disons, que le presto explose et puis qu'ils commettent un geste qui va être qualifié par les autres de violent. Alors, Emma, elle nous fait voir par un vocabulaire qui est souvent empreint d'émotion et d'émotivité sans toutefois devenir têteux, disons. Without becoming soppy. c'est juste parce que le mot est facile en anglais, j'essaie de le traduire, mais bon. Donc, sans faire vraiment dans le têteux, elle ne se gêne pas pour dire des choses comme beau, plaisir, joie, et pour intégrer dans son discours, je veux dire, une certaine passion et une certaine émotivité et une certaine indignation. Donc, il n'y a pas seulement son propos, mais la façon aussi qu'elle l'émet, qui nous fait voir, disons, les injustices, mais du point de vue de la personne qui a le petit bout du bâton, disons. Et puis, entre autres, elle revendique très fort le droit de se défendre. Quand quelqu'un est mis dans une situation où vraiment il n'y a pas d'issue, où à peu près toutes les façons de s'en sortir sont bloquées, bien qu'on pense simplement à quelqu'un qui n'arrive pas à se trouver d'emploi, qui n'arrive pas à trouver... je vais peut-être faire appel à Erin parce qu'elle a une citation là-dessus. Elle dit « S'il ne vous donne pas d'emploi, demandez du pain. S'il ne vous donne pas de pain, prenez le pain. » Et puis moi, en tant que mère de famille, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que manger, c'est fondamental. Avoir de l'argent, ça ne l'est pas. Quand vous vous retrouvez tout seul dans le milieu du désert avec vos 25 cents, puis moi que j'aurai une miche de pain, on verra lequel de nous deux qui est le plus cher. En fait, c'est peut-être la bouteille d'eau. Celui avec la bouteille d'eau, finalement, qui va être le plus riche, là, mais... mais le pain, il va être beau aussi. Donc, elle revendiquait pour les gens le droit de se défendre. Et elle assimilait pas ça, elle faisait une distinction entre la violence et le droit de se défendre. C'est difficile pour moi de rester objectif par rapport à ça parce que j'endosse complètement cette façon de voir les choses. Si les gens... Enfin, elle faisait une autre critique dans la société où les gens qui sont victimes de violences structurelles, de violences étatiques, quand ces gens-là, disons, qui pètent leur coche et puis qui font un geste que la société va qualifier de violent, mais qui serait, au regard d'Emma Goldman, de l'autodéfense, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les met en prison. Alors, un autre essai que j'ai lu d'elle, c'est son essai qui s'intitule simplement « Prison ». C'est très intéressant aussi de lire ça, mais je ne ferai pas de commentaires pour l'instant parce que j'ai eu assez de prison pour la fin de semaine, pour ceux qui me connaissent. Puis pour les autres, ben j'ai eu assez de prison, voilà, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, Erin a parlé d'un autre essai qui est très intéressant. Là, on arrive un peu plus par rapport à la guerre. C'est son essai sur le patriotisme. Encore là, elle anticipe beaucoup le travail des psychologues des années 60, les psychologues humanistes et les psychologues de la Gestalt aussi. Et entre autres, la psychologie sociale qui a amené des termes comme le groupthink. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, cette expression-là, le groupthink. C'est le genre de conformisme automatique dans lequel on embarque quand on se retrouve dans un groupe. C'est un peu inévitable, il faut être terriblement vigilant quand on est dans des groupes. L'être humain, fondamentalement, est une créature sociale, puis on veut être aimé puis accepté dans nos groupes. Puis même quand on est des anarchistes, on n'y est pas immunisé. Puis souvent, ben, un groupe va se mettre à penser plus ou moins pareil, puis de façon plus ou moins cohérente. Le patriotisme, elle voyait ça un petit peu, elle le critiquait un peu dans cette optique-là, où elle voyait ça comme étant une gang de personnes qui sont nées sur un même bout de terrain ou qui ont les mêmes références culturelles. Et sur la base de ça, se monte un chauvinisme total, c'est-à-dire on est les meilleurs que les autres, nous autres on a un beau livre, le bon Dieu nous a choisis, et autres absurdités de ce genre, on est le sexe le fort et toutes ces affaires-là. Donc pour elle, le patriotisme c'était vraiment une des racines de l'exclusion, de la division entre les gens, puis des rapports de domination. Le patriotisme cependant c'est qu'une des formes que peut prendre cette espèce de chauvinisme-là. Comme je vous dis, quand on lit Emma Goldman, on va voir que la même dynamique qui est celle du patriotisme va se retrouver dans les rapports de genre, dans les rapports sociaux et tout ça. Donc, ce qu'elle retire de ça, c'est de voir un groupe qui, pour des raisons qui sont finalement tout à fait arbitraires, qui se pense meilleur que les autres et se voit donc comme formant une unité. Et cette unité-là se donne à elle-même des droits par rapport aux autres, ou le droit d'envahir, ou le droit d'imposer sa vision aux autres, et tout ça. Et ça, évidemment, d'après ce qu'on sait d'Emma Goldman jusqu'à maintenant, vous pouvez deviner qu'elle n'était pas tout à fait d'avis que c'était une bonne façon de voir le monde. Plus par rapport au mode de vie, elle a écrit un autre essai que j'ai lu et que j'ai trouvé délectable, qui s'intitule « L'hypocrisie du puritanisme ». On a déjà fait mention de quelques-unes de ses positions au niveau des modes de vie. Ce qui est très intéressant quand on lit Emma Goldman, quand on lit, c'est un esprit qui est très clair, qui est très brillant, mais en même temps, comme je vous dis, c'est un esprit qui ne se gêne pas de parler à partir de son expérience, qui célèbre la vie, la joie, la légèreté, et qui voit le puritanisme comme étant une machine de mort. Faut dire qu'on est très bon, la société occidentale, pour créer de la mort. Juste dans la pièce ici, à part nous qui nous sommes déplacés ici, tout ce qui est ici est mort. Ça a peut-être déjà été, je ne sais pas moi ça, des coquillages, ça a peut-être déjà été, pas sûr, un arbre. Des autres choses ont peut-être déjà été dans le sous-sol en quelque part dans un autre pays. Puis là, il y a plein de monde qui sont morts là, pour qu'on aille le miner et qu'on fasse plein d'argent. Mais bref, on a une société qui crée du mort, qui transforme les choses vivantes, qui les immobilise et qui crée de la mort. Selon Emma Goldman, le puritanisme qui avait lieu aux États-Unis, qui avait cours aux États-Unis au tournant du 20e siècle, c'était l'entreprise qui tuait l'art, la poésie, la beauté, la douceur, qui encourageait la prohibition, l'abstinence, le refus du plaisir. Et puis ça, c'était toutes des choses qu'elle n'aimait pas. Plusieurs personnes ne connaissent même pas le nom d'Emma Goldman, mais connaissent cette célèbre citation qu'on n'est pas sûr qui est d'elle, mais qui quand même décrit bien sa façon de penser. Et je cite, enfin je pense, « Si je ne peux pas danser, ceci n'est pas ma révolution. » Alors, c'était une personne qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour vous rappeler de l'ère victorienne, les corsets et toutes ces patentes-là. Pardon? Oui, hein, on est assez vieux, certains. Mais elle, c'était une personne qui pensait que le corps n'était pas quelque chose de mal. Il faut dire qu'à cette époque-là aussi, il y avait Freud. Je veux dire, elle n'était pas ignorante des théories de Freud qui ramenaient la sexualité là, dans la vie humaine, qui reconnaissait même une sexualité aux enfants. Bon, ben, il y avait quand même d'autres personnes autour d'elle. Il y avait une espèce de courant là, contre le prohibitionnisme, contre la contrainte des corps et tout ça. Mais en tout cas, elle, c'était quelqu'un qui croyait qu'il fallait que le corps exulte. Et qui ne s'empêchait pas, d'ailleurs, d'éprouver beaucoup de plaisir et de s'amuser beaucoup, même dans les pires des circonstances, et même quand ses amis étaient en prison et tout ça, qui ne faisait aucun compromis sur la nécessaire joie de vie. Au niveau de ses idées féministes en particulier, ça, c'est ma très humble interprétation, puis je ne suis pas une spécialiste en théorie féministe, mais... Je trouve ça étonnant quand je lis Emma Goldman de voir à quel point ces idées sont celles qui sont véhiculées maintenant par les féministes radicales. Puis là, je ne parle pas par la marche du pain et des roses, je parle par les sorcières, par les collectifs comme les femmes ont faim et tout ça. Entre, je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent, là, mais c'est radical. Et puis, comme je disais tout à l'heure, elle faisait déjà des critiques qui étaient postmodernes avant son temps. Elle était contre le mariage. Encore là, elle faisait des parallèles, le mariage pour une femme, la prison pour un individu ou un militant. Elle voyait ça comme étant un endroit qui étouffait la femme, qui la subjuguait, puis qui la maintenait dans un état de dépendance par rapport à l'homme. Ce qui n'est pas tout à fait faux, en fait, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été mariée, là. Elle s'insurgeait beaucoup, entre autres dans son essai « Mariage et amour » contre le paternalisme, qui selon elle était, bon, évidemment, la structure sociale dominante et celle sous laquelle s'inscrivait le mariage et qui rendait, bon, la femme indépendante et la maintenait dans un statut infantilisant. Elle était, en fait, contre toute forme de contrainte sur l'amour. Erin l'a mentionné tout à l'heure aussi, elle était pour l'amour libre. Mais pour elle, ça ne voulait pas dire « carte blanche, tu fais ce que tu veux », puis ce n'était pas la révolution sexuelle qui a généralisé la sexualité de type masculin à toute la population dans les années 60. Elle, c'était vraiment un amour libre dans le respect de l'autre et dans l'engagement. Pas le n'importe quoi, ni les responsabilités sentimentales, mais bien quelque chose de tellement fort qu'il n'avait pas besoin de telle chose que le mariage pour le protéger. Pour Emma Goldman, l'amour est tellement fort qu'il n'y a pas besoin de protection. Moi, je trouve ça très beau. Bon, c'est peut-être un peu idéaliste, là, on a chacun nos désastres amoureux pour nous dire que c'est pas toujours comme ça, mais bon, enfin, on va y arriver. Queer, en tout cas. Plus intéressant que l'amour libre, il y a quand même une idée à laquelle on a déjà pas mal tous pensé parce que ça a tellement été populaire dans les années 60 puis on en a tellement entendu parler. Elle était pour la maternité libre. C'est très intéressant parce qu'elle reliait ça justement avec sa critique de la quantité versus la qualité. Puis elle considérait qu'une femme devait avoir le choix, l'occasion de mener au monde tous les enfants qu'elle désirait, mais aussi de ne pas mener au monde des enfants qui n'étaient pas désirés. Puis moi, pour être une mère, je vais vous dire encore là, je suis pas objective par rapport à Emma Goldman, mais je suis complètement d'accord avec elle. Je pense que c'est mieux d'avoir, quand on fait venir un être humain sur Terre, je veux dire, c'est un être humain, bordel, c'est quelque chose de gros, là. C'est excusez, mais c'est pas n'importe quoi. Puis je pense que chaque être humain qui vient au monde, peu importe où il vient au monde, quand même que c'est dans le milieu d'un camp de réfugiés en Somalie, mérite d'avoir, je veux dire, d'être célébré comme un miracle et d'avoir... Qu'on lui transmette à peu près toutes les richesses humaines possibles et qu'on lui donne toutes les ressources pour s'épanouir. Je vous rappelle encore qu'Emma Goldman voyait la société anarchiste comme étant une société d'individus épanouis. Et elle se demandait donc comment est-ce qu'une pauvre femme qui accouche à tous les années, qui a 20 enfants, pourra donner une attention digne d'un être humain à chacun de ces enfants-là. C'est en demander vraiment trop à la femme, puis c'est aussi, bon, créer une société qui veut juste avoir des bras puis des jambes, puis... c'est des consommateurs, puis des machines à plugger dans ses usines. Donc, elle s'insurgeait là-dedans. Donc, dans son analyse de la maternité, ben, elle rejoint la critique de la quantification de notre société, mais aussi la critique du modèle économique capitaliste et des industries de l'époque et du marché marché de masse et tout ça. Il faut dire que elle a étudié pour devenir sage-femme. Puis, comme on l'a mentionné au début, il y en a qui le savent déjà, elle a beaucoup milité pour l'accès à l'avortement et pour l'accès à la contraception pour les femmes. Encore là, c'est incroyable, c'est il y a 100 ans, puis on est encore en train de se battre pour ça. Puis Harper nous fait faire des pas par en arrière. Wouhou! Oui, je capote. En tout cas. Excusez-moi des secondes. Petit moment d'absurde. Enfin. Donc, en autant où on traite d'utopique, ou qu'on tente de couvrir de ridicule n'importe quelle idée novatrice, ou n'importe quelle tentative de renouvellement de notre société. C'est intéressant d'aller voir comment Emma Goldman considère que le bien commun est indissociable du bien de la personne. Elle anticipe déjà ce qu'on dit souvent dans les milieux anarchistes, que la liberté, ma liberté ne s'arrête pas où celle de l'autre commence, mais ma liberté dépend de celle de l'autre. Comment puis-je être véritablement libre quand les gens autour de moi ne le sont pas? Et aussi, elle était évidemment, ben là, c'est évident rendu à ce point-là, là, qu'elle était contre l'exploitation des femmes, contre le trafic des femmes. Et elle critique et remet en question les schèmes de genre avant même l'heure. Elle voit les rôles qui étaient imposés aux femmes et la façon qu'on évaluait les femmes comme étant une façon très, très réductrice, qu'on les jugeait pas tant pour leurs compétences ou même ce qu'elles accomplissaient, mais que les femmes, au tournant du 20e siècle, n'étaient jugées que comme membres vulnérables d'un sexe vulnérable. Alors déjà, elle se disait qu'elle anticipait beaucoup de critiques actuelles, notamment, je vais en citer juste une, Virginia Valiant, qui écrit un livre qui s'intitule « Why So So », qui a été écrit qui a été publié en 96 ou quelque chose comme ça, là, très récemment, et qui critique elle aussi les schèmes de genre et qui démontre qu'à notre époque encore, les femmes... Les schémas qu'on a dans la tête, les idées qui sont véhiculées dans notre société sur les rôles des hommes et des femmes, déjà à l'avance, comment dirais-je, set up, mais c'est pas ça le mot en français, mais déjà, les schémas de genre, comment dirais-je, condamnent, c'est un peu fort, mais quand même, condamnent un peu les femmes à être vues d'une certaine façon, puis à voir leur travail ou leurs efforts évalués d'une façon un peu plus négative que celle des hommes. Pour l'instant, ça change, puis je pense que dans la salle ici, il y a beaucoup de monde qui ont fait beaucoup de travail sur leur schéma de genre, et puis c'est bravo, mais il y a encore du travail à faire. Donc, elle était très revendicatrice pour les droits des femmes. Elle était, comment dirais-je, elle voulait beaucoup valoriser les femmes, mais par contre, elle n'était pas naïve. Et ce qui est intéressant avec Emma, c'est qu'elle faisait beaucoup d'autocritique. Pas une espèce d'auto-flagellation, d'auto-remise en question, là, où tu doutes de toi, là, puis tu sais, comme on croit souvent, comme on associe souvent aux femmes, malheureusement, mais vraiment une autocritique. Entre autres, elle disait que, elle reconnaissait que de tout temps, les femmes ont été plus susceptibles à vénérer des fétiches que les hommes. Et elle voyait à son époque l'espèce de, le fétiche courant, celui auquel toutes les femmes accrochaient leurs espoirs d'émancipation, c'était le suffrage universel. Puis elle disait, mais faites attention de ne pas vous contraindre, de ne pas vous cantonner dans une seule bataille ou dans quoi dans ça, parce que ça ne va pas vous amener le salut. La véritable révolution ne viendra pas de qu'on vous donne des droits, mais la véritable révolution puis l'avènement des femmes va venir du fait que les femmes elles-mêmes vont prendre autorité sur leur propre vie et vont changer leur propre façon de se considérer. Donc, elle enjoint beaucoup les femmes, non pas à revendiquer pour qu'on leur donne un cadeau, mais bien à revendiquer pour qu'on puisse prendre nos propres responsabilités. Elle dit, et là, j'ai fait une petite traduction rapide d'une citation, elle dit, « Il est possible que je sois considérée comme une ennemie des femmes, mais si je peux ainsi les aider à voir la lumière, je ne m'en plaindrai pas. » Bon, c'est un petit peu, ça fait un petit peu héroïque comme affaire, mais quand même, ça vous traduit l'idée qu'elle voyait que ça ne lui dérangeait pas de critiquer les femmes, même dans leur démarche d'émancipation, du moment que ça pouvait jeter un éclairage sur le fait qu'il n'y a pas juste une seule bataille à livrer et puis que ce n'est pas, une fois le suffrage atteint, qu'automatiquement toutes les femmes en dedans d'elles vont se sentir libres, épanouies et à l'égal des hommes. Et notamment, elle a écrit un autre essai qui s'intitule « La tragédie de l'émancipation des femmes ». Et déjà, elle critiquait un petit peu l'égalisation des sexes, qui est une impasse dans laquelle certaines tranchées ou certaines allées du milieu féministe sont rentrées peut-être dans les années 70-80. Des visées, disons, des voix un peu plus caricaturales qui sont presque uniformisantes, là, où on veut carrément estomper les différences. Emma n'était pas trop dans ce schéma de pensée-là. Elle pensait plutôt que les différences, c'était merveilleux, qu'il fallait les célébrer, mais qu'il ne fallait pas en avoir juste un contraste entre hommes et femmes, mais que la différence, ça opérait au niveau individuel. C'est chaque individu qui peut être différent. Et elle croyait que l'égalité des sexes, ça ne se réduisait pas à la simple et superficielle égalisation des êtres humains, mais que c'était un équilibre difficile à atteindre entre un individu qui reste elle-même, tout en restant dans une société solidaire et unie aux autres. Donc, ça rejoint encore là son idéal de l'anarchisme et de la société anarchiste. Donc, en conclusion, pour revenir un peu au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire la guerre, eh bien, Emma se positionnait contre la guerre et elle se positionnait du côté des gens qui font l'effort de réfléchir un peu. Moi, je rajouterais, pour faire un peu département de philo ce soir, ce sont des gens qui suivent l'appel des Lumières. L'idéal de la pensée des Lumières, c'était de penser par soi-même. Je veux dire, ils en ont fait des niaiseries, ces gars-là, mais ils ont au moins émis cette idée-là de penser par soi-même. Ce sont ceux et celles qui disent, à l'instar de Emma, « Bien, votre guerre, moi, c'est pas parce que je suis née ici, dans ce monde-ci, que forcément il faut que je milite pour ma patrie et tout ça, et c'est pas parce que the Home Alone Gang s'en va en guerre que moi, je vais suivre le troupeau. Cette guerre-là, que vous menez, qu'elle soit la Première Guerre mondiale ou encore l'occupation canadienne en Afghanistan aujourd'hui, bien, c'est votre guerre. Et puis, moi, si vous voulez aller tuer d'autres personnes, bien, allez-y, tuez-les vous-même. Moi, je n'irai pas les tuer pour vous. » Donc, c'était quand même une position assez anti-guerre. Comme je vous disais, dans Emma, les choses sont très interreliées. Sa position contre la guerre, on peut la lire puis on peut la pressentir un peu partout. Elle est basée sur les... Pour elle, les dynamiques de guerre sont basées sur les mêmes motifs que l'exploitation, la domination, le chauvinisme, quel qu'il soit. Elle ne voit pas de coupure abrupte entre la vie à l'échelle individuelle et ce qui en émerge à une autre échelle, c'est-à-dire la vie sociale. Et notamment, par rapport à... Je veux dire, dans le milieu anarchiste, c'est sûr que c'est pas un parti politique avec une ligne de parti. c'est une tendance où on voit plusieurs individus. Et puis, il y a ces individus-là qui vont s'élever puis qui vont s'insurger contre la guerre et qui vont commettre des actes, comme je vous disais, qui vont peut-être être considérés violents selon la société dominante. Mais elle fait toujours le contraste entre cette violence de la personne, cette violence qu'on peut reconnaître dans l'acte d'une personne qui s'insurge contre un système versus la violence que cette personne-là a subie d'un système ou la violence que le système demande à la personne. Demande à la personne de perpétrer pour elle. Je ne sais pas si c'est clair, là. Mais en fait, je veux juste vous rappeler qu'elle, elle croyait vraiment à l'autodéfense, que quelqu'un, que c'est plus important de comprendre les gens que de les juger, et que les gens qui sont mis dans des situations qui sont intenables, bien, il fallait un peu comprendre qu'à un moment donné, ils allaient se rebeller ou qu'ils vont réagir. Et moi, je trouve que c'est important, ici, je ferai encore un dernier petit bout d'étymologie, de voir c'est quoi la différence entre violence et agressivité. Parce qu'en général, en théorie philosophique, on voit la violence comme étant un abus de force. Et alors que l'agressivité, bien, ça vient du latin « ad gradere », qui veut dire en quelque sorte « prendre sa place ». Donc, je dirais qu'Emma Goldman, même si elle parle de violence à certains endroits, c'est important de voir que ce qu'elle voyait comme étant les contraintes, le système économique, qui broyait des vies humaines, le complexe militaro-industriel qui amenait des jeunes hommes et dans la guerre, qui faisait que des jeunes femmes devenaient des butins de guerre, la violence, les déportations d'immigrants et tout ça. Ça, elle voyait ça comme de la violence, comme l'abus par un État de sa force sur un individu. Donc, comme étant une violence d'un organisme, c'est un abus de force parce que l'État est forcément une entité plus forte que l'individu. Et quand cet état-là s'écrase sur un individu, Emma Goldman voyait ça comme de la violence. Moi, je proposerais par contre de nommer, elle, ce qu'elle appelle l'autodéfense ou la violence de l'individu qui se défend contre l'État, comme de l'agressivité. Mais l'agressivité saine, qui fait que, hey, sacrement, j'ai le droit de respirer. Puis, tu sais, j'ai le volume que j'ai, puis je ne suis pas en train de faire violence à l'air ou à l'espace quand je me déplace. Je suis en train simplement de prendre ma place. Et si quelqu'un vient puis me pousse comme ça, bien, j'ai peut-être le droit de résister. Puis, c'est peut-être pas de la violence. Peut-être que si on appelle ça de la violence, c'est parce que, justement, on veut me mettre, on veut me stigmatiser, puis on veut éventuellement me mettre en prison comme étant indésirable. Mais moi, je soulignerais vraiment qu'il y a une distinction à faire, et là-dessus, je suis très d'accord avec Emma, entre une violence étatique et une saine autodéfense agressive de la part de l'individu ou des collectifs d'individus contre cette violence perpétrée par des États sur leur population ou sur d'autres États, comme on fait. Et pour terminer, je dirais que aussi contre la guerre, bien, c'était une personne qui se posait contre l'interventionnisme. Elle fait le parallèle avec le suffrage pour les femmes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle considère qu'il ne suffit pas pour émanciper les femmes de simplement obtenir le droit de suffrage, le droit de vote et tout ça. On ne peut rien vous... Excusez-moi. Donc, l'émancipation des femmes, ça peut très bien ne rien vouloir dire si cette émancipation-là, si l'évolution, ne se fait pas au sein de nous. Et là, elle fait le parallèle, et moi, je vais le pousser un peu plus loin. Elle fait le parallèle avec les dynamiques sociales, mais moi, je vais le pousser plus loin avec la démocratie. La démocratie, ça ne peut pas être imposé à un pays. La démocratie, au sens où on l'entend encore, bon, j'ai dit que c'était pas vraiment ça tout à l'heure, mais au sens où c'est une population qui s'autodétermine puis qui prend son propre pouvoir, c'est pas quelque chose qui peut être apporté aux gens. Il faut que la révolution, on peut peut-être leur amener, tu sais, des petites écoles qui vont se faire brûler, puis, je sais pas moi, des crayons là, qui vont durer 3 jours, mais il y a même pas d'aiguises. Je sais pas si on pensait amener des aiguises avec le crayon, eux autres. En tout cas, mais tout ça, c'est très superficiel. C'est comme donner le droit de vote aux femmes. Si les femmes en elles-mêmes continuent à demander à leur mari, ben c'est quoi qu'il faut que je vote? Ou, tu sais, des choses comme ça, c'est pas vraiment une véritable émancipation, une véritable évolution qui a eu lieu. La véritable évolution ou la véritable révolution, ça commence à l'intérieur de nous. Et je dirais que la dernière, en tout cas, dernier point là-dessus, c'est, ben, faisons le parallèle un petit peu avec ce qui se passe en Afghanistan, puis en d'autres endroits comme au Moyen-Orient où on croit pouvoir apporter la démocratie. Peut-être qu'on fait un peu fausse route. Peut-être qu'on devrait peut-être suivre l'exemple d'Emma Goldman, puis aller là-bas, aider les gens là-bas à s'autodéterminer, leur donner un coup de main, suivre leur idée, leur façon de vouloir changer leur société, bien humblement arriver avec nos moyens, mais les laisser décider, ce qu'on n'oserait jamais faire, ça a bien l'air, et puis ainsi permettre peut-être aux femmes en Afghanistan ou dans d'autres pays, elles-mêmes de décider comment elles veulent s'épanouir, s'émanciper, dans des populations où il y a énormément de... Je ne ferai pas toute la critique, mais bon, trois quarts du temps, des endroits où il y a des catastrophes, je veux dire que ce soit Saddam Hussein ou Ben Laden, c'est des gens qui ont obtenu leur pouvoir grâce aux États-Unis et aux Occidentaux. Là. T'sais, on commence par mettre les hommes de paille, puis tant qu'ils font notre affaire, là, c'est nos alliés, puis on s'en fout, on fait la sourde oreille à savoir s'il y a des problèmes de droits humains dans leur pays. Mais à partir du moment où ils ne nous laissent plus rentrer avec nos soldats puis sortir avec leurs ressources naturelles, puis ils disent non, on veut de l'autonomie, là, tout d'un coup, ils deviennent des terroristes, puis là, ouh, s'ils s'insurgent, c'est automatiquement des bonhommes 7 heures ou... des talibans ou des terroristes. Puis là, on rentre, puis on détruit tout, puis là, on revient avec nos compagnies, puis on reconstruit. Tout ce temps-là, moi, je ne vois pas une seule goutte d'empowerment qui a été faite aux populations locales. Puis, à mon avis, c'est la plus grosse leçon, enfin, l'idée que qu'il faut être clairvoyant et qu'il ne faut pas être dupe par rapport à ces genres de manigances-là, c'est une des plus grandes leçons qu'Emma Goldman, il y a 100 ans, regardant la conjoncture au tournant du siècle, puis à la Première Guerre mondiale, ben c'est une des plus grandes leçons qu'elle nous a léguées. Et puis, je voulais vous lire une petite citation que je n'ai pas eu le temps de traduire, malheureusement, pour conclure, mais je vais la traduire, comment on dit, à capella, là, je sais pas trop. C'est cute! L'histoire nous dit que chaque classe opprimée obtient la véritable libération de ses maîtres à partir de ses propres efforts. Il est nécessaire que les femmes apprennent cette leçon, qu'elles réalisent que leur liberté ne va s'étendre qu'aussi loin que son pouvoir d'atteindre sa liberté par elle-même. Il est donc bien plus important pour elles de commencer avec sa régénération interne, de se couper du poids des préjudices, des traditions, des coutumes. La requête pour des droits égaux dans chaque aspect de la vie est juste et équitable. Mais, après tout, le droit le plus vital, c'est le droit d'aimer et d'être aimé. Faites l'amour, pas la guerre. Merci.